RCF.
Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour le 18-19 en Champagne. Comme vous pouvez l'entendre, aujourd'hui ce n'est pas Alexis qui présentera le magazine régional, mais c'est bien moi, Inès Elgaloussi. Vendredi, on est très heureux de vous retrouver sur RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes, avec notre habitué du vendredi, Jacques Cohen, pour une nouvelle chronique d'actualité. On parlera du conflit Russie-Ukraine à propos des missiles américains qui atterrissent sur la Russie avec le professeur. Mais avant d'entamer le programme, je vais saluer les autres stagiaires qui sont avec nous. Médina Erich, bonjour Médina.
Bonjour Inès.
Ilona Martin, bonjour Ilona.
Bonjour Inès.
Et votre journaliste préféré, bonjour Alexis.
Bonjour Inès, bonjour à toutes et à tous. Et je suis un peu stagiaire aussi aujourd'hui.
C'est ça. On vous retrouvera lors du cœur du journal, c'est ça?
Normalement, si je reste. Si je vois que vous débrouillez bien, je m'en vais en cours d'émission.
On retrouvera Médina pour nous présenter la météo du week-end en espérant que le temps s'améliore. Toutefois, avant cela, nous retrouverons un maire qui nous parle ce vendredi, Didier Herbillon, le maire de Sedan, avec Jean-Pierre Benoît. Nous serons également avec Jérôme Gorgeau pour nous parler de sa nouvelle exposition « Des tronches et des sous-blocs » qui se tiendra à Châlons-en-Champagne du 29 au 30 juin. Puis nous écouterons Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort pour nous rappeler ce qu'est la Visitation, une fête célébrée aujourd'hui. Et enfin, on ira faire un tour à Saint-Dizier pour parler du nouveau centre de formation nommé Studio P par Antoine Regnault, le directeur délégué de cette dernière. Voilà pour le sommaire de l'émission du 18-19. On commence avec la chronique d'actualité avec le professeur Jacques Cohen au micro d'Alexis.
La chronique d'actualité avec le professeur Jacques Cohen avec nous par téléphone. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Et on va parler aujourd'hui du conflit Ukraine-Russie, auquel se mêlent évidemment les Américains, avec des missiles américains qui atterrissent sur la Russie. Jacques Cohen, c'est quoi cette histoire?
Qui vont atterrir, des missiles américains qui vont atterrir sur le territoire de la Fédération de Russie. Dans la déclaration de Biden, c'est finalement uniquement sur la région de Belgorod, c'est-à-dire dans le cadre des combats contre l'attaque russe au nord-est de Kharkov, mais on va voir que malheureusement la chose peut très très facilement déraper, car les Ukrainiens ne comptent nullement se limiter à cela. Quel est le problème? Les Ukrainiens disposent de quelques missiles de fabrication maison et de beaucoup de drones avec lesquels ils n'ont pas hésité à attaquer jusqu'à Moscou et plus loin. C'était contraire à l'avis américain qui, du point de vue stratégique, considérait qu'il ne fallait pas attaquer en territoire de la Fédération de Russie. On va voir pourquoi cette attitude me paraissait tout à fait justifiée et pourquoi il y a des changements maintenant. Ne pas attaquer sur le territoire de la Fédération de Russie revient à une stratégie qui est d'aider l'Ukraine à se défendre et d'empêcher l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie, tout en évitant que le conflit change de conflit régional à guerre mondiale. Il faut voir les buts de guerre. Si les buts de guerre, c'est d'empêcher la Russie d'envahir l'Ukraine, il n'est pas indispensable d'aller jusqu'à une guerre mondiale et de devoir envahir la Russie, défiler sur la place rouge à un coût qui sera considérable, non seulement en coût de guerre et en coût de destruction à l'ouest, parce que les Russes ne resteront pas les bras ballants, mais surtout en coût géopolitique. Parce que faire exploser la Fédération de Russie, ça veut dire qu'il n'y ait plus de puissance régionale. C'est une tactique dont on a vu le résultat catastrophique, la destruction des puissances régionales avec la destruction de l'Irak et la contagion sur la Syrie et la situation actuelle donc du Moyen-Orient. S'il n'y a plus de puissance régionale, les conflits vont exploser immédiatement entre pays du Caucase, d'une part, par exemple, dans l'Asie centrale également, où les frontières et les peuples sont hélas prêts à être mis en cause et à vouloir s'exterminer les uns les autres, dans les Balkans bien sûr également, et d'ailleurs au passage, l'Ukraine devenant à ce moment-là expansionniste par rapport au Caucase du Nord et au Kouban, ou par rapport à la Biélorussie et à la Pologne, on peut prédire des explosions calamiteuses pour lesquelles les États-Unis ne voulaient pas, jusqu'à présent, ou ne veulent pas, être les gendarmes du monde. Depuis la doctrine finalement Obama, qui est de limiter la défense de leurs intérêts à des concessionnaires locaux d'une part et à du no-touch de part aérienne d'autre part. Le raisonnement des Ukrainiens est exactement le contraire. Leur raisonnement est que tous les soutiens occidentaux peuvent effectivement être efficaces, mais au prix de la guerre jusqu'au dernier soldat ukrainien, et que l'équilibre entre entre les deux pays est extraordinairement défavorable à l'Ukraine vis-à-vis de la Russie, qui est quatre fois plus grosse, sans parler de la taille du territoire, et que donc leur chance, c'est d'obtenir une généralisation du conflit. Donc ils ont essayé à plusieurs reprises. Les Américains ont été un peu surpris au début parce qu'ils n'avaient pas l'habitude que leurs protégés n'obéissent pas, mais ils ont dû le constater, et ils ont finalement fait une petite grève larvée dans les livraisons militaires pour faire comprendre aux Ukrainiens qu'il pourrait y avoir des misères s'ils n'étaient pas plus attentifs. Mais les États-Unis sont en campagne électorale et une position beaucoup plus ferme par rapport à la direction ukrainienne n'a pas pu être prise. D'autre part, il n'y a pas que la campagne électorale, il y a aux États-Unis deux lignes, ce qui est très rare, qui divisent les ministères. Blinken est partisan d'une escalade en pensant qu'elle pourra être mesurée. Le Pentagone y a été hostile depuis le début et le reste. Et la communauté du renseignement, qui est finalement la troisième force politique aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas que la CIA, il y a 17 agences au total, cette communauté est divisée, ce qui est très rare. Elle est divisée avec un courant, donc la CIA, ou du moins une branche action de la CIA d'une part, qui considère qu'on peut en profiter pour se débarrasser de l'influence russe, et que de toute façon la guerre contre le bloc Russie, Chine, elle va finir par arriver, donc autant prendre des gages avant de faire cette guerre. Et puis, il y a l'autre ligne dont je vous ai parlé, qui est que du point de vue géopolitique, attaquer en Russie, ça empêche l'autre solution, qui est de miser sur la désagrégation de la société politique russe pour se débarrasser de Poutine, au vu du coût matériel et surtout humain de la guerre. L'affaire Prigojine a quand même montré que cette ligne n'était pas stupide, parce qu'on n'est pas passé loin de son résultat. Depuis, il y a eu les attaques en Russie, et le résultat est exactement ce qu'avaient prédit les adversaires de ces choses-là, c'est-à-dire que les Russes considèrent que, même si Poutine a fait du point de vue de beaucoup de Russes, même de la majorité des Russes, une énorme connerie, les autres, c'est-à-dire les États-Unis et les Occidentaux, en profitent, et qu'il faut maintenant défendre la patrie, malgré la façon dont les choses ont été mal engagées. Donc ce qu'on appelle le réflexe autour du drapeau. Donc pourquoi Biden finit par lâcher qu'on pourra se servir des armes américaines sur le territoire de la Fédération de Russie de façon limitée, c'est-à-dire sur la zone du front? Alors c'est déjà un petit peu illogique de dire qu'on va s'en servir sur la zone du front en indiquant qu'on va le faire avec les armes à longue portée, qui peuvent aller à plusieurs centaines de kilomètres. C'est un peu bizarre. Alors, que se passe-t-il en Europe? Là, on est extrêmement surpris, du moins je suis extrêmement surpris, de la facilité avec laquelle se répand l'option de la guerre mondiale. Les Baltes et les Ukrainiens défendent ce genre de choses depuis longtemps. Les Polonais sont beaucoup plus réservés. Ils voient certes qu'ils pourront tirer les marrons du feu en récupérant ce qui était polonais avant 1945, plus ou moins directement ou ensuite dans les guerres locales, c'est-à-dire la Biélorussie et la Galicie, mais jusqu'à présent en Occident, plus loin, c'est-à-dire en Allemagne, en France, etc., et en Suède, dans les pays scandinaves, les gens n'étaient pas partisans de cette tactique. Or là, appuyé sur Stoltenberg, le type dirigeant l'OTAN, on voit toute une campagne pour que les Ukrainiens puissent tirer sur les centres névralgiques russes, en termes non seulement militaires, mais industriels, ce qui veut dire en clair que les choses déraperont très vite, car en effet, comme vous le savez, il n'y a pas de guerre propre. C'est tant vrai que les gens essayent d'éviter de taper sur les civils, il finit toujours par y en avoir qui sont tués. Et de ce point de vue-là, le début, c'est-à-dire des attaques en Russie, par exemple sur Belgorod, montre que la situation des Ukrainiens et des Russes est à peu près équivalente. Il y a des images d'immeubles de l'époque koutchevienne à Belgorod éventrés par des missiles, de la même façon qu'il y en a plein, et hélas beaucoup plus d'ailleurs, en Ukraine éventrés par des missiles russes. Il faut aussi rappeler que si tant est que les deux belligérants s'efforcent d'épargner les civils. Ils leur disent tous les deux, mais les Ukrainiens, par exemple, tirent sur la ville de Donetsk par intermittence depuis 2014. Donc là-dessus, je suis assez pessimiste. Les Ukrainiens ont l'habitude de désobéir, avec une tactique très russe d'ailleurs, en engrangeant ce qu'ils ont obtenu et en passant un pas plus loin. Donc on peut prédire qu'il y aura des casses importantes à partir des missiles. C'est ce qui seront tirés, et que d'ailleurs l'annonce, l'illusion des Occidentaux que en fait les missiles sont mis en jeu par des techniciens occidentaux et qu'ils iront là où on veut, ne durera pas bien longtemps. De la même façon, le président Macron a dit qu'on n'hésitera pas à mettre des troupes au sol. Eh bien, c'est déjà fait sous forme de conseiller pour gérer les armes sophistiquées. si l'on va sur des contingents plus importants, ce sera une escalade, non pas tellement d'efficacité militaire, mais politique, de telle sorte qu'on peut prédire des campagnes russes en Occident. Campagne graduée, ça ne sera pas tout de suite des missiles sur Bourges pour détruire la fabrique des Césars, mais des campagnes graduées. Et la prochaine fois, puisque nous n'avons pas le temps aujourd'hui, j'expliquerai pourquoi c'est un faux dilemme que de dire qu'il ne faut pas renouveler Munich et capituler par peur de la guerre, alors que nous avons tout à fait les moyens de gagner cette guerre sans qu'elle devienne une guerre mondiale, à condition de ne pas suivre les va-t-en-guerre fraîches et joyeuses qu'on entend maintenant absolument partout.
Merci Jacques Cohen de nous avoir éclairé sur cette escalade du conflit Ukraine-Russie et à très bientôt.
À très bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Nous retrouvons un maire qui nous parle ce vendredi, Didier Herbillon, le maire de Sedan qui est avec Jean-Pierre Benoît.
Didier Herbillon, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous, monsieur le maire. Alors c'est vrai qu'on parle tellement de Sedan depuis quelques semaines que ça n'arrête pas. On a quand même depuis quelques semaines beaucoup d'activités. On a eu le festival médiéval, mais j'en cite un, mais il y a beaucoup d'autres rendez-vous qui ont attiré du monde à Sedan.
Oui, il y a vraiment de très belles choses dans le cadre en particulier des 600 ans de notre château fort. Alors les fêtes médiévales ont été un succès incroyable avec un record de visiteurs, 26 000 entrées sur le festival en un week-end, un soleil magnifique, une ambiance très chaleureuse. Enfin, ce sont des moments dont on raffole et qu'on aime. Et puis, il y avait là des gens de partout, y compris des gens qui venaient de très loin. On avait des plaques d'immatriculation quasiment de toute la France. Et c'était sans doute aussi la première fois. Donc oui, ça va bien. On est très heureux de tout cela. Après, on a aussi de très belles expositions autour des fortifications, de notre château fort, dans plusieurs salles de la ville. Et une que je vous recommande tout particulièrement, elle est absolument magnifique, avec des pièces d'une grande rareté. C'est celle qui se tient actuellement à la Maison du Patrimoine et qui s'appelle Murmure. Mur, évidemment, M-U-R-S, et renouvelé. C'est vraiment un bon moment. Et puis aussi, ne l'oublions pas, notre marché couvert est finaliste parmi les 10 marchés les plus beaux de France, organisé par TF1, ce concours sur le marché préféré des Français.
Alors il faut dire, Didier Herbillon, monsieur le maire, que l'agenda ne s'arrête pas là, parce que dans les jours prochains, il va y avoir plusieurs rendez-vous. Il y a un festival aussi, une band track, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit?
Oui, ça ce sont les cultures urbaines. C'est un festival qui est très ancré sur la ville, qui occupe un certain nombre d'endroits de la ville, le skatepark, la MJC Calonne, la place d'armes aussi. Et ça, c'est ce week-end. Donc là encore, là, tous les jeunes qui raffolent des cultures urbaines seront les bienvenus sur notre ville. Et puis la semaine suivante, c'est la fête de la bière, du 31 mai au 3 juin. En même temps, les rendez-vous au jardin, dans notre magnifique jardin botanique. Enfin bref, vous voyez énormément de choses dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Peut-être aussi quelque chose de très très chouette qui va se dérouler le vendredi 7 juin. Un concert Jouons fort au château. Et ce sont des enfants des écoles. 800 enfants, vous vous rendez compte? C'est formidable. Dans les douves du château fort. Là encore, le lien avec les 600 ans. Bref, énormément de choses très importantes. Alors, il y a aussi le Rama le 16 juin, samedi et dimanche.
Et qu'est-ce que c'est exactement le Rama?
Alors, c'est un rassemblement européen de maquettistes de toute l'Europe du Nord qui accueille tous les deux ans plus de 10 000 visiteurs payants. Ça anime tout le quartier du lac. C'est un très grand moment aussi d'animation dans notre ville. Et puis, si je puis me permettre d'abuser de votre temps, le 21 juin prochain, colloque international, cette fois, avec des universitaires de très nombreux pays, sur l'architecture militaire et son dialogue avec notre ville. Donc ça, c'est encore dans le cadre des 600 ans, et un colloque d'histoire organisé par notre société d'histoire.
Alors, il faut dire que ça n'arrête pas, mais est-ce que vous pouvez déjà évaluer, je pense que oui, Didier Herbillon, les retombées, par exemple, de ce qui s'est passé dans les plus beaux lieux, avec le concours, le château, avec Stéphane Bern? Ça, il y a eu des retombées déjà, il y a eu un effet quand même.
L'effet, il a été médiocre, c'est-à-dire qu'on a fait 30 000 visiteurs de plus que l'année dernière. Donc vous voyez, l'impact a été très considérable. et puis sur la ville elle-même. C'est-à-dire que de plus en plus, les touristes entrent en ville. Quand ils sortent du château, ils sont invités à visiter la ville parce qu'elle s'est améliorée. Les places ont été rénovées, elles sont très conviviales maintenant, avec de belles terrasses, etc. Et donc, les commerçants eux-mêmes, ils le disent encore dans la presse aujourd'hui d'ailleurs, nous disent ben, on a de plus en plus de touristes et pour nous, c'est important.
Donc là, on voit quand même l'impact de la communication et des réalisations qui sont faites. On peut le juger, j'allais dire, et là, un maire dans une ville, il a un retour rapide hein, sur les événements.
Oui, tout à fait. Il y a les réflexions, bien évidemment, des acteurs économiques qui nous disent que ben, tout ça soutient leurs activités. Mais il y a aussi les Sedanais eux-mêmes qui me font part de leur fierté, au fond.
Oui, quand vous êtes dans les rues de Sedan, quand vous êtes un homme de contact, de proximité, vous êtes sans doute interpellé sur ces questions-là.
Oui, oui, très fréquemment. Et ça se rend agréable parce que les gens disent ben, on est fiers de notre ville. Donc ça, c'est quand même... Vous savez, la psychologie, c'est un élément important du dynamisme d'une ville. Quand les gens sortent de dizaines d'années de marasme, il faut quand même le dire, de déclin économique, etc., et que tout d'un coup, eh bien, depuis maintenant quelques années, les choses vont un peu mieux, ça remet du baume au cœur. Et je le sens, c'est-à-dire que je sens ce mouvement, ce sentiment qui commence à revenir d'une fierté d'être Sedanais et de participer, parce que vous savez, tout cela, toutes ces animations, toutes ces grandes opérations que nous menons, on ne pourrait pas le faire sans les Sedanais eux-mêmes, qui s'investissent dans leurs clubs, qu'ils soient culturels, sportifs, sociaux, etc., pour participer à tous ces événements. On parlait des enfants pour un concert, bah, les écoles également mettent la main à la pâte dans ces événements-là. Non, c'est vraiment, je crois vraiment, et ça je m'en félicite, une action collective qui nous permet de faire en sorte que cette ville soit animée.
Ça veut dire aussi que ça a des retentissements aussi pour Ardennes Métropole. Vous êtes le vice-président, ça fait partie aussi globalement de l'attraction ardennaise, parce que ça retentit sur l'ensemble du département.
Mais oui, vous savez, quand les deux villes principales du département, Charleville et Sedan, avancent, bougent, se développent, c'est l'ensemble du département qui en bénéficie, et tout particulièrement, bien sûr, le territoire d'Ardennes Métropole et des communes qui travaillent avec nous. Il faut des locomotives pour que tout le monde puisse en profiter. Et je crois qu'on est en train de retrouver, à Charleville comme à Sedan, ce rôle de locomotive qu'on avait un peu perdu, il faut bien le dire.
D'ailleurs, on l'a déjà mentionné, Didier Hermillon, il y a un petit effet sur la démographie à Sedan, et ça s'est un peu amélioré.
Bah oui, on a gagné 520 habitants.
Ça, c'est quand même impressionnant au moment où on parle de baisse démographique, j'allais dire nationale même. Hein.
Oui, tout à fait, tout à fait. On est un peu à contre-courant et c'est heureux actuellement. Alors, vous savez, il faut toujours être prudent sur ces avancées démographiques. Pour moi, ça veut dire qu'on a stabilisé la population. Si dans 10 ans, la tendance se confirme, on pourra dire qu'on a vraiment, vraiment gagné et franchi un pas important pour la renaissance de notre ville. Mais il faut toujours être prudent. Tout ça, ça demande du travail, ça demande de l'engagement et pas s'enflammer. Vous voyez, alors vous allez me trouver un peu prudent, c'est pas le cas, mais juste réaliste, parce que quand on sort de 40 ans comme cela de déclin, et quand on voit qu'il y a un frémissement, il faut justement l'accompagner, le renforcer, faire en sorte que ça ne retombe pas. Mais on ne maîtrise pas toujours tout, évidemment, et en particulier les situations nationales et internationales. Mais voilà, je suis prudemment optimiste, mais le chemin parcouru, il est parcouru, et ça, personne ne l'enlèvera.
Merci en tout cas Didier Hermillon d'avoir été avec nous et puis que ça continue pour ce dynamisme dont on se fait l'écho ici sur RCF à Sedan et à très très bientôt sur RCF. Au revoir Didier Hermillon.
Merci Jean-Pierre Benoît.
Merci à vous Monsieur le Maire et on enchaîne avec le journal. Les titres de ce vendredi 31 mai. Les gendarmes de la Marne sont vigilants à la sécurité sur les routes du département. On vous emmène au Crêpes de Reims où la pièce de théâtre « Le crabe dans tous ses états » sera jouée demain, samedi à 18h. Avec le retour du printemps et les journées plus longues, le mois d'avril est souvent marqué par une hausse des accidents de la route. Dans la Marne, face à cette situation, les gendarmes ont redoublé d'efforts pour sécuriser nos routes. Les explications avec Lilou Marjolais.
En avril, la présence des forces de l'ordre a augmenté de 15%. Des contrôles quotidiens ont été effectués sur tous les week-ends et aux heures de pointe en semaine. Leur objectif ? Cibler les comportements les plus dangereux, tels que les excès de vitesse, la conduite sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants, ou l'usage du téléphone au volant. Pas moins de 2452 infractions constatées, soit une hausse de 21%. Parmi elles, 1436 étaient graves. Les contrôles de vitesse ont été renforcés, avec 628 opérations menées, aboutissant à 625 verbalisations. Malgré ces efforts, avril a tout de même enregistré un lourd bilan, mais moins dramatique que les mois précédents, avec une seule victime mortelle en zone gendarmerie contre 3 en mars 2024. Cette baisse montre l'efficacité des mesures prises pour intercepter les délinquants de la route, mais nous appelle à la responsabilité. L'opération Avril Bleu, sous l'autorité du préfet Henri Prévost, a également misé sur la prévention. Des actions comme reprise de guidon à Mourmelon-le-Grand ont sensibilisé les conducteurs des deux roues motorisées. La vigilance reste de mise pour les mois qui suivent. Avec la fin des vacances de printemps et le début des vacances estivales, des contrôles renforcés sont déjà prévus. Le préfet de la Marne insiste sur la responsabilité et la prudence de chaque usager sur la route. Alors n'oubliez pas que dans la Marne, le printemps n'est pas seulement la saison des fleurs, mais aussi celle de la vigilance.
Merci Lilou Margelet, stagiaire à la rédaction de RCF Cœur de Champagne. Ce vendredi, le conseil départemental des jeunes de la Marne a renouvelé une de ses opérations phares, le repas solidaire dans un collège de la Marne, Alexis Claudretz.
Depuis sa création en 2022, les collégiens du Conseil départemental des jeunes, CDJ, ont été à l'initiative pour organiser de multiples actions bénéficiant à l'ensemble du territoire marnais, selon trois axes, handicap, environnement, enfance et famille. L'un des moments forts annuels est le repas solidaire prévu dans les collèges. L'objectif est de proposer aux élèves qui déjeunent sur place un menu élaboré avec des produits frais et de saison, tout en visant à réduire les coûts des repas, les bénéfices générés étant ensuite reversé à des associations locales. L'an passé, les collégiens du CDJ avaient récolté 7 200 € redistribués à trois associations marnaises, Roseau, Rosas le Pélican et Marne Nature Environnement. Une remise de chèque avait été prévue sur le stand du département lors de la foire de Chalon au mois de septembre dernier. Ce midi, c'est au collège Maryse Bastier de Reims qu'était organisée cette action toujours appréciée.
Merci Alexis. On vous retrouve dans un instant pour un rendez-vous exceptionnel dans les Ardennes demain. Mais avant cela, focus sur une activité rémoise organisée ce samedi également. La compagnie T'en pince pour moi, en collaboration avec le Centre Ressources de Reims, proposera à 18h au Crêpes de Reims la pièce de théâtre Le Crabe dans tous ses états. Denis Jaunet, chargé de communication au Centre Ressources, présente le synopsis.
Ça parle du concert, mais plutôt d'une façon assez ludique. C'est l'histoire de Clara, qui est âgée de 30 ans, qui vient de découvrir qu'elle a un cancer du sein, et qui va traverser toutes les étapes que traverse une personne touchée par le cancer, depuis l'annonce, en passant par le traitement, la communication avec ses proches, éventuellement le retour à l'emploi, et puis la reconstruction après un cancer, et l'accompagnement qui est primordial vraiment pour se reconstruire après un cancer.
Ça sera la dernière représentation de cette pièce qui évoque un sujet sur lequel la parole n'est pas encore totalement libérée.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on remarque que le cancer est encore tabou. On a du mal à parler du mot cancer. C'est vrai que quand quelqu'un a le cancer, il a du mal à en parler autour de lui, même avec sa famille, avec des amis. C'est compliqué. Et à travers cette pièce-là, on veut montrer que l'accompagnement, ne pas rester seul, et les activités du centre ressources sont là justement pour accompagner la personne touchée par le cancer et son aidant. C'est souvent le conjoint ou autre qui aide cette personne-là. Et nous, on accepte aussi, on accueille aussi les aidants au centre ressources.
Denis Jaunet au micro d'Alexis Claudrez de RCF Reims-Ardennes. Entrée 12 € par personne. Rendez-vous demain samedi à 18h au Crêpes de Reims. Côté sport, il y aura la 44e édition du Rallye des Ardennes ce week-end sur les routes du département. 280 km seront parcourus par plus de 90 pilotes Et Alexis, vous voulez nous parler d'un rendez-vous sportif pas comme les autres, à Sedan, demain après-midi.
C'est le moins que l'on puisse dire, Inès. Le stade Louis Dugauguez n'a pas arrêté de vibrer cette saison avec les belles performances du club sportif Sedan-Ardennes en Régional 3. Mais il retrouvera encore un peu plus de couleurs demain après-midi avec un match de gala entre les anciennes gloires du club comme Cédric Mionnet, Marcus Mokake, Pierre Debloc, Pius Ndiaye ou encore Paco François Bornier et une équipe de bénévoles de la LISA. De nombreuses surprises sont prévues tout au long de l'après-midi, notamment le retour en tribune de la mascotte nationale d'Hugo. Coup d'envoi à 16h, entrée 8€. Toutes les recettes iront à la LISA, la Ligue dans l'intérêt de la société et l'animal. En ouverture de cet après-midi exceptionnel, un tournoi entre les U8 et U9 du CSSA et de Bazeille est organisé dès 14h. Un événement convivial pour profiter en famille ou entre amis et soutenir une cause qui peut-être vous tient à cœur. Et puis l'occasion aussi de profiter du soleil, puisqu'à Sedan, il fait toujours beau. Ce n'est pas Médina qui nous le dira le contraire dans quelques instants.
Merci Alexis. Tout de suite, place à la météo avec ma copine de licence et de stage, Médina Erich. Bonsoir Médina.
Bonsoir Inès.
Alors, quel temps en Champagne-Ardenne pour ce week-end ?
Ce soir dans les Ardennes, la soirée sera nuageuse avec des températures autour de 12 degrés sur l'ensemble du département. Pour la Marne, le ciel sera également nuageux. Les températures atteindront 13 degrés à Reims, 12 degrés à Châlons-en-Champagne et 11 degrés à Sainte-Menou. Le ciel sera également couvert dans la Haute-Marne et l'Aube, où il fera 11 degrés et quelques averses sont prévues. Demain, nous souhaiterons une joyeuse fête à tous les Justins. Continuons avec la météo de ce week-end. Samedi, dans les Ardennes, la journée commencera sous les nuages, avec des températures matinales de 12 degrés. L'après-midi, le thermomètre atteindra 14 degrés et des averses sont attendues. Dans la Marne, les températures seront de 13 degrés le matin et entre 14 et 16 degrés l'après-midi. Des épisodes de pluie sont également prévus. En Haute-Marne, les températures passeront de 11 degrés le matin à 17 degrés l'après-midi. La pluie s'invitera aussi dans la journée. Il en va de même dans l'Aube où le jour se lèvera avec un agréable 14 degrés et l'après-midi atteindra 16 degrés. Dimanche, les Ardennes connaîtront des températures matinales de 14 degrés et atteindront 20 degrés l'après-midi, accompagnées d'un grand soleil à Rethel. Dans la Marne et l'Aube, nous nous réveillerons par un agréable 13 degrés qui augmentera légèrement autour des 16 degrés dans l'après-midi où la pluie pointera le bout de son nez. Il en va de même dans la Haute-Marne où il pleuvra toute la journée avec des températures allant de 11 degrés le matin jusqu'à 18 degrés l'après-midi. Ce dimanche, nous souhaiterons une joyeuse fête à toutes les blondines et en attendant, je vous souhaite une agréable soirée.
Merci Médina. Ainsi se referme ce journal, le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Les sous-bocs, petits bouts de carton que l'on positionne sous notre bière, peuvent sembler être sans grand intérêt. Et pourtant, l'artiste marnais Jérôme Gorgeau a su les détourner en véritable œuvre d'art en dessinant des visages au dos de ces derniers. Lilou Marjolais, stagiaire chez RCF Cœur de Champagne, va nous faire découvrir cet univers artistique hors du commun depuis la place Foch.
Bonjour Jérôme Gorgeau.
Bonjour.
Nous sommes actuellement en plein cœur de Châlons afin de découvrir votre toute nouvelle exposition qui s'intitule « Des tronches et des sous-blocs ». Alors, vous avez une activité créative qui est très riche puisque vous êtes dessinateur mais également rédacteur dans une revue de BD ainsi qu'auteur de théâtre. Alors, parlez-nous un petit peu de vous, de votre rapport au monde artistique.
C'est une respiration, j'en ai besoin. Alors si je ne fais pas ça, ben, je me demande pourquoi j'existe finalement. Je m'ennuie. De mettre au boulot dodo, ça ne m'intéresse pas. C'est le petit plus et ça rapproche des gens de faire de la création. C'est ça l'idée.
Vous disiez lors d'une précédente interview qu'un artiste doit aller au-devant des gens. J'imagine que c'est pour ça que vous avez décidé d'exposer sur la voie publique, dans la vitrine de la pharmacie Sicard. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
En fait, je me suis aperçu, j'avais observé dans le milieu des peintres, les gens, ils font des expos, et il y a un vernissage. Au mieux, l'artiste va vendre une toile ou deux, puis après, l'expo va durer 3 semaines et personne ne va y aller. Et donc je me suis dit, comment je fais pour avoir une expo où les gamins, ils passent devant avec leurs sucettes et ils voient mon expo, qu'est-ce qui... aller au-devant des gens. Donc là, c'est idéal et c'est vrai que dans ma tête, je savais que je voulais faire une expo ici. Je connaissais Jérôme Sicard, je connaissais son ouverture, sa gentillesse vis-à-vis des artistes, mais dans ma tête, c'était déjà voté d'avance. Il m'aurait dit non, j'aurais été surpris en fait.
Votre exposition se nomme « Des tronches et des sous-bocs ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ce mouvement pictural? Pourquoi ces idées des sous-bocs et un petit peu vos inspirations?
J'ai un ami qui s'appelle Laurent Lelmet qui a repris quelque chose qui existait déjà dans le monde du dessin, qui était de dessiner derrière des sous-bocs, les fameux petits bouts de carton qu'on a sous la bière. C'est un exercice amusant pour un dessinateur parce qu'il faut tenir en un format très réduit. Et chacun s'amusait un petit peu. Et Laurent Lelmet a créé le sous-bocisme pour rendre ça un peu faussement pompeux et amusant finalement. Et donc on a créé ce mouvement comme ça. Et au début, je le regardais faire. J'ai dit, ouais, bon, il est gentil que c'est sous-bocs. Et puis un jour, je l'ai fait et je me suis plu à le faire. Et j'ai retrouvé un plaisir à ma table à dessin. Le soir, j'allais avec gourmandise dessiner, faire mes petits gugus, mes petits ronds, mes petits fonds, et je me suis dit, je crois que ça peut être ludique, et pour une fois, je vais faire un truc qui va intéresser plus de monde, puisque j'aime bien faire mes trucs artistiques, mais des fois, ils sont un peu confidentiels. C'est du théâtre, donc ça n'intéresse pas tout le monde, ou alors des bandes dessinées noires et blancs, autobiographiques, donc j'intéresse qu'une partie infime des gens. Et là, sans le faire exprès, je me suis dit, ça va intéresser, à mon avis, plein de gens et les gamins.
Dans la vitrine, on a vu des visages qu'on connaissait, mais on a vu également des visages anonymes. C'est des inspirations des gens que vous croisez ou...
En fait, l'astuce, c'est qu'au départ, je n'avais pas pensé à faire des gens connus. Et je me suis dit, je vais trouver des tronches. Mais au bout de 100 tronches, vous ne savez plus quoi dessiner. Vous avez un blond, un brun, une rousse, une blonde, un noir. Vous ne savez plus après. Puis vous dites, qu'est-ce que je peux faire? Vous commencez à regarder autour de vous un peu plus. Puis après, vous dites, tiens, je connais cette personne-là. Et du coup, vous mettez à dessiner une personnalité locale ou un personnage. Il y a Babar, qui était quelqu'un de très connu sur Chalon. Dominique Baris, que j'aimais beaucoup, qui nous a quittés il y a quelques mois. J'aimais son look aussi. Je me suis dit, je vais le dessiner. Ça sera un petit clin d'œil amical. Et puis là-dessus, j'ai pensé à une ou deux autres personnes qui se reconnaîtront. J'ai vu Martine Isola, qui est une élue locale, qui fait beaucoup pour son territoire. Donc j'avais envie de la dessiner aussi parce qu'elle avait un style, un look. Et c'est agréable à dessiner. Je me suis dit, je peux la dessiner tout en étant un dessin doux et gentil, pas quelque chose de méchant. Il y a des dessins, je me dis, je ne les fais pas parce que la personne, je la desservirai un peu peut-être. Et puis des gens que j'admire. Et puis après, on dit, bon, j'en ai fait 400-500. Hein, donc je dis, qu'est-ce que je pourrais dessiner? Là, il n'y en a que, même pas 200 qui sont exposés, mais j'en ai fait 500. Donc il faut trouver l'idée. Je prends le catalogue, je regarde quelqu'un à la télé, je dis, tiens, j'aime bien la coupe de cheveux. Des fois, c'est la coupe de cheveux des Rolf Lind, mais juste la coupe de cheveux. Des fois, c'est je peux discuter avec vous, il me dira, j'aime bien son petit sourire, ou alors sa petite boucle d'oreille, ou ses sourcils. Et hop, je pars de ça. Voilà, c'est l'idée. C'est toujours varié, varié, varié.
D'accord, et bien merci à vous et puis j'invite tous nos auditeurs à venir faire un tour à la pharmacie pour découvrir cette belle exposition.
Merci à Lilou Marjonnet et Jérôme Gorgeau pour ce témoignage. Si vous voulez découvrir cette belle exposition, nul besoin d'entrer dans une galerie, il vous suffira d'observer les vitrines chalonnaises situées à l'intersection de la place Foch et de la rue de Marne. Cette exposition est visible jusqu'à fin juillet. Vous pourrez aussi retrouver le travail de Jérôme Gorgeau du 29 au 30 juin lors du regroupement d'artistes et d'artisans aux noms essentiels de Saint-Guy.
Le 18-19 sur RCF.
Vous êtes toujours dans le magazine régional du 18-19, RCF Cœur du Champagne, RCF Reims-Ardennes. Et tout de suite, nous retrouvons Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qui était en direct ce matin avec Jean-Pierre Benoît.
Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous et bonjour à toutes.
Bonjour Monseigneur, alors évidemment aujourd'hui c'est le jour de la visitation. Vous pouvez nous expliquer un petit peu, nous rappeler ce qu'est cet événement?
Eh bien voilà, le dernier jour du mois de mai, nous fêtons ce moment où Marie, portant déjà Jésus après la visite de l'ange Gabriel, s'est rendue chez sa cousine Élisabeth, on dit en général que c'est dans le village d'Ain Carême, qui pour venir aider sa cousine, et nous savons le tressaillement de Jean-Baptiste lorsque Marie arrive, et qui donne la belle salutation d'Élisabeth à Marie, et puis le Magnificat. Et donc voilà, c'est pour finir le mois de mai, une belle fête. Et aujourd'hui, on se sert beaucoup de cette idée, enfin de cet épisode de la visitation, pour illustrer ou pour essayer de comprendre ce que devrait être chacune de nos rencontres à nous chrétiens. Voilà, nous portons tous quelque chose de la présence du Christ, et ça devrait susciter la joie, l'émerveillement devant le tressaillement, voilà, devant l'approche du Christ, chaque fois que nous rencontrons en tant que disciples du Christ ou que nous rencontrons quelqu'un en tant que nous sommes disciples du Christ.
C'est un appel à la vie d'une certaine façon aussi, à la naissance.
C'est un baptême, un appel à la vie à la naissance, c'est un signe de la vie de l'enfant dans le sein de sa mère, mais c'est aussi un appel à la rencontre et à oser nous apporter le plus grand que nous. Dans chacune de nos rencontres, nous apportons plus grand que nous.
Et dans chacune de ces rencontres, il y a toutes celles et tous ceux qui sont concernés par la fin de vie. Et on peut dire que cette semaine a été particulièrement marquée par un certain nombre d'interventions que vous avez faites dans les médias, et parce qu'il y a la discussion qui se prolonge à l'Assemblée nationale. Hier, vous étiez sur France 3. Bon, effectivement, Monseigneur, c'est un sujet dont il est difficile de parler en quelques minutes, mais c'est un sujet qui est important pour vous.
Voilà, c'est un sujet important. Pour ma part, j'ai eu le sentiment que depuis 2 ans que nous en parlons, puisque le gouvernement remue ce projet et le prépare depuis plus de 2 ans. Ça fait 2 ans que les évêques, de façon générale, nous en parlons. Nous avions, il y a 2 ans, fait une lettre pastorale. Tout ça n'a pas eu beaucoup d'écho chez les chrétiens. On n'a pas senti que les paroisses, les espaces missionnaires chez nous, etc., s'en emparent beaucoup. Très peu de fidèles m'en ont parlé. Mais je constate que maintenant que le projet de loi est sur la table et en discussion au Parlement, alors ça commence on commence à s'interroger. Et voilà, des gens viennent m'en parler avec inquiétude. Je trouve que les parlementaires font un beau travail, je dois dire, pour essayer de comprendre ce que pensent les personnes malades, les soignants, ce que pense la population. Mais je trouve que notre opinion est toujours un peu paralysée par des sondages avec lesquels on nous assomme, qui disent que toute la population française serait pour, sauf une poignée d'évêques et de rabbins et d'imams dans les d'autres cultes. Je crois que ce n'est pas si vrai. Les gens qui sont vraiment dans cette situation-là, voilà, personne n'a envie de souffrir, personne n'a envie de vivre en souffrant, mais un certain nombre de gens qui sont malades, de maladies incurables, ont envie de vivre quand même, parce qu'ils ont des choses à vivre encore, et que même avec un certain degré de souffrance, on découvre qu'on vit et qu'on est vivant et qu'on a quelque chose encore à vivre. Le problème, c'est que notre système de santé aujourd'hui est peu capable, peu performant pour accompagner la souffrance et la douleur, alors qu'on peut le faire. Ça s'appelle les soins palliatifs. Et la loi, normalement, prévoit que notre pays en soit équipé de manière assez large. Et ce n'est pas le cas, parce qu'on n'a pas appliqué la loi Leonetti ni la loi Leonetti-Claeys, qui sont encore mal connues.
D'ailleurs, on aura l'occasion de vous réentendre dans une émission spéciale qui a été réalisée mercredi et qui sera diffusée demain, samedi, entre 17h et 18h, et puis sans doute aussi la semaine prochaine. Alors, évidemment, on est toujours quand même, en cette fin du mois de mai, dans cet esprit de Pentecôte, Monseigneur, un souffle, on l'a vu avec Béron, avec les rencontres, il y a une ordination d'évêque dimanche, et vous-même, vous allez vous rendre dans le département de la Manche, à Villedieu-les-Poêles, pour le Grand Sacre. De quoi s'agit-il exactement, Monseigneur ?
Alors, le Grand Sacre, c'est une procession, en fait, du Saint-Sacrement. Je pense que sacre vient de Saint-Sacrement. Donc, il y a lieu à la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, donc la fête de Dieu, comme on dit parfois. Depuis 1680, je crois, cette procession de la fête de Dieu revêt une solennité particulière à Villedieu-les-Poêles tous les 4 ans. Et à cause du Covid, il n'y en a pas eu depuis 8 ans. Et j'ai l'honneur d'avoir été invité à présider celui de cette année, l'édition de cette année. Voilà, je suis très, très heureux de pouvoir le faire.
On attend plusieurs milliers de personnes, oui, 5 000, 6 000.
C'est une grande manifestation, c'est un grand, grand et beau moment. Et c'est une belle occasion de réfléchir à l'Eucharistie, ce qu'est le sacrement de l'Eucharistie, et à la visibilité que l'on peut lui donner. Voilà, cet acte du Christ, du Christ qui donne sa vie, qui donne son corps et son sang à ses disciples pour se donner lui-même. Et comment est-ce qu'il peut être constructeur d'un ordre social? Ça nous renvoie peut-être à l'idée de la visitation par laquelle nous avons commencé, un ordre social dans lequel nous apportons toujours les uns les autres et nous engageons dans une alliance. Quand nous nous rencontrons, nous faisons alliance. Les lectures de ce dimanche évoqueront le sang de l'alliance. Dieu fait alliance avec nous, mais il nous invite à faire alliance les uns avec les autres.
Avec la fête de Dieu, on entend peut-être moins parler aujourd'hui, en 2024, dans l'histoire de l'Église, des célébrations, la fête de Dieu, c'est quand même un rassemblement.
La fête de Dieu est un moment très, très important. Vous savez que ça part de vision d'une Sainte-Julienne du Mont-Cornillon, qui est une moniale à Liège, au XIIe siècle, je crois, et de mémoire. Et ça a été vraiment l'occasion d'affirmer la foi dans la présence du Christ dans l'Eucharistie. Et ça a donné lieu, dans un peuple croyant, chrétien, à de grandes processions. Voilà. Dans une société sécularisée, je trouve que c'est difficile d'exposer le Christ, précisément sous le regard de gens qui ne savent pas qui il est. Mais entre croyants, il y a quelque chose de réjouissant, de marcher derrière et autour du Christ.
On est parti de la visitation, Monseigneur, l'esprit de Pentecôte, l'appel à la vie, et tout ça, ça passe aujourd'hui par des paroles. Vous êtes interviewé, vous participez forcément à des rencontres dans cet univers médiatique, en devant répondre en tant que président de la Conférence des évêques de France. C'est pas facile d'avoir une parole aujourd'hui, en quelques minutes, qui dise l'essentiel et qui soit comprise de tous.
Alors c'est un exercice certainement très difficile et très exigeant. La parole doit toujours être... La parole, je trouve que c'est toujours une promesse. La parole, elle nous engage. Il faut faire attention à ne pas parler pour ne rien dire. Donc il faut, pour avoir quelque chose à dire, eh bien, ça demande aussi de l'écoute, ça demande de l'intériorité, ça demande de prendre du recul par rapport aux événements. Il ne s'agit pas simplement de réagir comme ça et de jeter ce qui nous passe par la tête. Il faut que la parole vienne d'une profondeur.
Vous venez de publier avec Bertrand Perrier, qui est avocat aux éditions Salvator, un livre qui a pour titre « Sur parole ». Ça aussi, on invite les auditeurs à le lire, parce que c'est un échange entre un avocat et vous-même. Mais il est question de parler, il est question aussi d'affirmer la foi, en tout cas pour vous, de délivrer un message.
En tout cas, c'est l'occasion d'une belle conversation. Bertrand Perrier est connu parce qu'il a présidé et organisé des concours d'éloquence pour des jeunes de banlieue. Et ça fait l'objet d'un livre. Il se trouve, voilà, il m'a proposé de faire cet échange avec lui. Pour moi, les heures passées à échanger l'un avec l'autre ont été des moments très agréables. C'était une sorte de respiration. C'était très agréable de prendre 2-3 heures de temps en temps pour discuter et réfléchir à des composants essentiels de notre vie humaine, et en particulier ce fait de la parole et un petit peu l'art de la parole.
Sur parole, l'évêque et l'avocat, c'est aux éditions Salvator. On le trouve bien sûr dans les bonnes librairies, par exemple la Procure à Reims ou dans d'autres librairies. Évidemment, on invite nos auditeurs parce que moi j'ai vu, et on termine là-dessus, qu'il y avait aussi des témoignages personnels des gens qui donnaient une parole dans votre famille, dans des discours de mariage, dans des choses comme ça. Et c'est intéressant pour mieux vous connaître. Merci Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort.
Merci d'avoir promu ce petit livre.
Et à bientôt.
Et merci à tous nos auditeurs et auditrices.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
À Saint-Dizier, le nouveau centre de formation, nommé Studio P, ouvrira ses portes le 16 novembre prochain, un centre qui proposera un catalogue d'une dizaine de formations autour de la communication. Pour nous en parler, Antoine Regnault, directeur délégué de Studio P, est en ligne avec Christopher Fausten.
Antoine Regnault, bonjour.
Bonjour.
Comment est venue l'idée de créer ce nouveau centre de formation à Saint-Dizier ?
Alors, le centre de formation, c'est un petit peu la petite sœur d'un média local, hein, qui est ici une chaîne de télévision locale qui s'appelle Puissance Télévision,
oui.
À Saint-Dizier, à Vitry-le-François. Une chaîne locale qui, finalement, recevait beaucoup de stagiaires en son sein pour des milieux de l'audiovisuel, mais également journalistique. Et à force de recevoir et finalement de transmettre, on s'est dit... Il faudrait peut-être créer réellement la branche dédiée à la formation qui accueille des stagiaires, mais qui finalement les forme et crée cette demande de stagiaires ici à Saint-Dizier. Et ça crée en plus à côté finalement une offre de formation supérieure supplémentaire à l'offre déjà existante sur le territoire et peut-être s'imbriquer dans l'offre régionale au final avec des formations un peu innovantes.
Alors, vous avez déjà à peu près répondu à la question, à l'origine de cette création. Donc, c'est Puissance TV, mais vous êtes tout seul ou il y a d'autres structures qui vous accompagnent autour de ce projet ?
Alors, il y a trois structures qui sont à la naissance de Studio P, Puissance Group, notre maison mère, Puissance Télévision, la chaîne locale et une agence de communication qui s'appelle PECOM. Ça, c'est les trois structures qui sont un petit peu voilà, l'origine et la genèse du projet. Mais d'autres structures nous accompagnent hein, dans ce projet, vraiment centre de formation Studio P, des structures telles que l'agglomération du Grand Saint-Dizier, le conseil départemental de la Haute-Marne ou alors la région Grand Est. Voilà, trois structures publiques et d'autres structures privées sont aujourd'hui soit partenaires, soit clients. Déjà de ce centre de formation. Voilà, tout un écosystème qui se crée finalement autour de ce nouveau centre, je vous le dis, dans l'optique de monter en compétences au milieu de la région Grand Est.
Parlons cible, si vous le voulez bien, Antoine Regnault. À qui est destiné concrètement ce centre de formation ?
Eh bien, j'ai envie de dire, presque à tout public. Oui. Nous avons un catalogue qui est assez large. Notre cœur de cible aujourd'hui, c'est des étudiants. Le cœur de cible, c'est les étudiants avec une formation qu'on va développer dans un instant, mais autour vraiment du journalisme et de la préparation aux écoles de journalisme. Mais on a également une cible qui est une cible de salariés, des salariés qui sont soit en situation d'emploi ou alors demandeurs d'emploi et qui recherchent justement à re-rentrer dans le monde du travail dans un domaine qui serait le nôtre, c'est-à-dire de la communication, le journalisme ou de l'audiovisuel. Donc ici aussi, on a des formations qui répondent à leurs besoins, ou alors même du jeune public, parce qu'on intervient aujourd'hui dans des écoles, dans des centres aérés, dans des centres périscolaires, sur lesquels on vient en éducation aux médias. Le fameux EMI, on vient en éducation aux médias et à l'information, avec des résidences journalistiques au sein même d'établissements scolaires, ou alors dans des temps périscolaires, sur des initiations un petit peu plus courtes, sur lesquelles les jeunes peuvent se sensibiliser au milieu du journalisme, ou alors même réaliser un reportage le temps d'une après-midi.
Antoine Regnault, directeur délégué de Studio P, ce nouveau centre de formation qui va ouvrir dans les prochains mois du côté de Saint-Dizier en Haute-Marne. Cette particularité de ce centre de formation, Antoine Regnault, c'est cette préparation au concours des grandes écoles de journalisme qui sera lancée un peu en amont de l'ouverture du centre de formation, c'est-à-dire en septembre.
Oui, c'est ça. Alors le centre de formation, lui, est finalement déjà ouvert. Ça fait quelques temps que nous travaillons un petit peu en sous-marin pour ce centre de formation.
Oui.
En réalité, c'est même depuis 2022, réellement, nous avons un emploi sur un chargé de projet sur ce centre de formation qui le développe et qui récolte finalement l'ensemble des agréments nécessaires pour pouvoir dispenser de la formation. Mais cette préparation aux écoles de journalisme, elle est très importante. C'est un peu notre fer de lance dans ce projet. C'est autour de cette prépa que l'on a créé l'ensemble du catalogue. Cette prépa, elle est super importante pour nous parce que c'est une prépa qui correspond à nos valeurs de journalisme de proximité, qui correspond également à un besoin de territoire ici au cœur de la région Grand Est, en se disant à Saint-Dizier et aux alentours, parce que l'idée c'est aussi de travailler avec le bassin, je vais vous en parler, mais l'idée c'est de créer ici au cœur, entre Reims et Nancy, une réponse à ce besoin de formation au journalisme, une préparation qu'on a voulu en présentiel. Et en présentiel, voilà, c'est le moment de vous le dire, avec des acteurs locaux, parce que l'idée, c'est aussi de jouir des aspects de l'environnement. C'est comment réaliser une prépa quand on est effectivement dans une grande ville. Voilà, c'est peut-être possible dans une salle, dans des salles de travaux et des salles de théorie. Nous, on a aussi le luxe, finalement, de pouvoir aller en extérieur, de pouvoir aller prendre des images autour du lac du Der, de pouvoir finalement participer aussi à un rayonnement d'attractivité du territoire, tout en liant finalement l'utile à l'agréable.
Oui,
aujourd'hui, on s'entraîne à faire des images vidéo pour justement pouvoir faire former des journalistes de vidéo, journalistes reporters d'images. Voilà, aujourd'hui, on pourra le faire au bord du lac du Der ou même avec justement le festival Photo Montier en s'entraînant avec justement de la photographie ou alors au sein de stages avec des journalistes de proximité, des correspondants ou des rédacteurs. Donc finalement, l'idée, c'est d'utiliser le patrimoine, l'environnement qui nous entoure et pas être enfermé dans des murs, dans des bétons qu'on peut trouver dans plein de prépas dans d'autres grandes villes, dans de grandes métropoles. Et là, du coup, d'avoir ce luxe-là, finalement, de la ruralité et de prendre vraiment le bon côté de cette ruralité et se dire, on a de la place, tant mieux, on peut ouvrir les fenêtres, les oiseaux chantent.
Antoine Regnault, directeur délégué de Studio P. Le centre propose donc un catalogue d'une dizaine de formations autour de la communication. Quelles sont les formations justement proposées par Studio P?
Alors ces formations, je vous dis, donc pour des salariés qui soient aujourd'hui en emploi, des patrons qui leur disent il faut voilà monter en compétences, ou même le salarié qui le demande, ou alors certains demandeurs d'emploi qui veulent se former, et là du coup peuvent avoir ce catalogue de communication qui soit autour de la gestion des réseaux sociaux, par exemple une gestion de réseaux sociaux qui est aujourd'hui très important dans beaucoup de postes, soit bien dans sûr. Les postes de communicants, soit même dans des postes un petit peu transverses. Aujourd'hui une boutique qui veut exister sur internet crée une page sur un réseau social pour pouvoir débuter sa communication dite gratuite. cette gestion de réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut la faire chez nous avec une partie fondamentale ou alors une partie approfondissement. Dans l'approfondissement, on peut aussi d'ailleurs choisir des spécialités, se spécialiser sur un réseau social plus qu'un autre en fonction de la cible que l'on veut choisir. De là, nous, on a un panel de formation qui se développe autour des 8 réseaux sociaux principaux. Mais on a aussi d'autres formations en communication comme du média training ou de la prise de parole qui vont venir ici former justement ces futurs répondants à des journalistes auprès du coup d'un micro, d'une caméra, comment demain agir devant ces outils qui sont pas forcément familiers. Donc on a des formateurs qui interviennent sur ce média training et puis après d'autres formations de communication classiques autour de logiciels comme la prise en main de suite Microsoft par exemple.
Merci Antoine Regnault.
Merci à vous.
Directeur délégué de Studio P et longue vie à ce nouveau centre de formation à Saint-Dizier. À très bientôt.
Merci à vous, monsieur. Le centre de formation Studio P est à découvrir en ligne sur le site studiop.fr. C'est ainsi que se termine le magazine régional du 18-19. Je tiens à remercier Thierry, qui est le technicien à la régie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée, Médina.
Bonne soirée, Inès.
Bonne soirée, Ilona.
Bonne soirée, Inès.
Et bonne soirée aux journalistes.
Bonne soirée, Inès.
Merci à toutes et à tous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée.